de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques.
Mission de sortir du nucléaire en Drôme-Ardèche. Nous sommes heureux de vous retrouver chaque mois sur Radio Méga pour vous parler du nucléaire. Ce mois-ci, nous recevons les membres du collectif Stop Tricastin. Donc nous aurons trois invités que nous écouterons un peu plus tard dans l'émission. Mais nous commençons, comme à notre habitude, l'émission par les billets de nos collaborateurs, en commençant par Georges qui va nous donner des nouvelles de la situation à Fukushima.
Voilà, bonjour à tous et à toutes. Au menu de ce jour, je vous propose plusieurs sujets. D'après les RSN, des mesures de radioactivité et des évacuations de population toujours à Fukushima. D'après TEPCO, trois cœurs ont fondu, sa feuille de route est donc irréaliste. Et ensuite, le cyclone Songda du 29 mai. Alors d'abord, d'après le directeur de l'environnement de l'IRSN, 70 000 personnes sont à évacuer, dont 9 500 enfants de 0 à 14 ans, au-delà de la zone des 20 km. Dans l'année suivant la catastrophe, il y a un risque d'irradiation externe de plus de 10 millisieverts, soit 600 000 becquerels au mètre carré pour les césium 137 et 134. Au-delà de la zone des 20 km, plus de 26 000 personnes risquent d'être exposées à des doses cumulées supérieures à 16 millisieverts d'après des mesures des autorités japonaises et américaines. Deuxième sujet. Suite au fait que TEPCO a reconnu que trois cœurs de réacteurs ont fondu, il prétend qu'il peut encore rétablir les systèmes de refroidissement des réacteurs. Pour le réacteur numéro 4, le corium combustible fondu sera très difficilement extractible et l'enceinte de confinement est percée et fuit abondamment. Il en est de même pour les deux autres réacteurs. La solution proposée d'encapsuler les réacteurs dans une enceinte sera difficile à mettre en œuvre compte tenu du sous-sol gorgé d'eau très radioactive. Enfin, trois réacteurs restent dangereux car actifs, donc à la merci d'une augmentation d'hydrogène, ce qui suppose un risque d'explosion. Troisièmement, en 2009, un cyclone était déjà passé sur la centrale et le 28 mai, le super typhon Songda risquait de mettre les ruines de la centrale à toute épreuve, notamment de déplacer des poussières radioactives sur des zones dites sûres, et aussi par la violence de ces vents. Ce qu'il en a été vraiment, le 29 mai à 20h52, Songda s'est affaibli et transformé en dépression tropicale. Il est passé avec de fortes pluies et des vents de 100 km/h, ce qui a retardé les réparations des techniciens sur la centrale, et, ce qui est soupçonné, occasionner un déversement dans l'océan Pacifique d'eau de pluie contaminée. Voilà, c'était toujours les bonnes nouvelles. Je vous dis pas à la prochaine.
Merci Georges.
Oui, toujours présent.
Effectivement, c'est effectivement jamais de très bonnes nouvelles, malheureusement, en provenance de Fukushima.
Non, je veux faire remarquer quand même que plus le temps passe et plus Fukushima, je ne vois pas bien la sortie.
Bon, voilà, gardons espoir quand même.
Oui, tout à fait, oui.
La parole à Vanessa qui veut nous parler de la gestion du risque et de la question des assurances. Voilà, sur le nucléaire.
En France.
À toi Vanessa.
Alors, il aura fallu que le drame de Fukushima survienne pour que l'autorité de sûreté nucléaire admette enfin que le risque zéro n'existe pas. Or, la gestion du risque nucléaire met en jeu plusieurs questions de droit. Si en amont les textes viennent étayer les revendications de ceux qui veulent en finir avec cette industrie coûteuse et mortifère, en revanche, le régime de responsabilité civile présente des défaillances. En effet, parmi ces textes, on retrouve la Charte de l'environnement, qui est un texte constitutionnel depuis 2004 et qui énonce trois grands principes : le principe de précaution, le principe de prévention et celui de pollueur-payeur. Par ailleurs, la Charte de Stockholm en 1972 et la Déclaration de Rio en 1992 font valoir, je cite, l'homme a un devoir fondamental et solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. Le principe de précaution est également introduit en 1992 dans le traité de Maastricht et fixe comme objectif à l'Union européenne de promouvoir une croissance soutenable en respectant l'environnement et la santé des personnes. La politique de la communauté vise un niveau de protection élevé. Elle est fondée sur le principe de précaution et d'action préventive des atteintes à l'environnement. Le principe de précaution est donc un principe d'action et non d'inaction. S'agissant du principe de prévention, il consiste à limiter la survenance du phénomène dangereux ou à prévoir des mesures pour combattre le sinistre si celui-ci survient. C'est la prévision. Le risque est donc un danger qui lui-même est un accident potentiel. De ce fait, le risque n'est souvent pas perçu comme tel, mais il peut bel et bien mener à l'accident. Or, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que les conséquences d'un accident nucléaire sont inassurables de manière classique. En effet, Tchernobyl et Fukushima, pour ne citer qu'eux, ont révélé trois problèmes majeurs. La dimension sanitaire catastrophique, la difficulté d'évaluer le coût des dommages, la lenteur et l'insuffisance de l'indemnisation des victimes. En effet, garantir l'indemnisation suppose de pouvoir appréhender et mesurer les dommages, ce qui se heurte à deux difficultés. D'une part, les origines des accidents peuvent être soit internes, soit externes aux installations nucléaires. Les scénarios en la matière sont multiples. D'autre part, la majorité des dommages nucléaires ne sont pas réparables. Dommages matériels par la contamination de biens ou dommages sanitaires. En effet, les dommages sur la santé sont latents et les premiers symptômes n'apparaissent chez la victime qu'après un certain laps de temps après l'exposition aux rayons. De là, on trouve aussi des dommages héréditaires qui affecteront plusieurs générations. Il est possible aujourd'hui de considérer que toutes les victimes de Fukushima ne sont pas encore nées. Ces dommages sont également transfrontaliers, puisqu'ils touchent plusieurs territoires. Le risque nucléaire est donc un risque catastrophique, voire cataclysmique. Or, un cataclysme peut déstabiliser les réserves mondiales de l'industrie de l'assurance et de la réassurance en rendant très incertaine l'indemnisation des populations. Quelques chiffres. L'assurance responsabilité civile des exploitants des installations nucléaires est calquée sur le régime de responsabilité instauré par la Convention de Paris en 1960 et la Convention dite complémentaire de Bruxelles en 1963, signée par 14 pays dont la France. Toute assurance confondue, le risque est pris en charge à hauteur de 365 millions d'euros maximum par accident. Tandis que selon un récent rapport de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les répercussions d'un accident majeur pourraient atteindre 430 milliards d'euros. Bien loin, donc très loin, des plafonds des assurances. En somme, le système français permet que l'on investisse des millions pour prolonger la vie des réacteurs nucléaires au-delà de la durée pour laquelle ils ont été construits, augmentant ainsi la probabilité d'un accident. Alors même que la gestion de ce risque est parfaitement insuffisante et que les citoyens n'ont pas conscience qu'en plus d'être les financeurs de ce type de projet dangereux, ils sont également les victimes potentielles d'une industrie et d'une politique qui ne peuvent prévoir de les indemniser en cas d'accident. Espérons alors qu'aucun drame ne survienne à l'avenir, et c'est pourquoi le collectif Stop Tricastin réclame d'urgence la fermeture immédiate de tout le site du Tricastin.
Merci Vanessa. On va enchaîner avec Alain qui, avant de se glisser dans la peau de l'invité, puisqu'il va faire partie des invités de l'émission du jour, va nous faire son billet et nous parler de la grève des pompiers justement à Tricastin.
Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, sûreté nucléaire, les salariés en première ligne. Après l'analyse par Vanessa des concepts liés à la gestion du risque nucléaire, voici une actualité qui va directement à l'encontre du principe de prévention dont elle vient de nous parler. À l'appel de la CGT, les pompiers et les agents de sécurité de la centrale du Tricastin sont en grève illimitée depuis lundi dernier. Ils bloquent les trois accès du site et les deux entrées du chantier, ne laissant passer que les piétons. Ils estiment ne plus avoir les moyens d'assurer leur mission de sécurité. Ce mouvement de grève fait suite à la fusion depuis le 1er avril de la Force locale de sécurité, la FLS, et de l'Unité de protection physique, l'UPP, dans le cadre de la réorganisation en cours qui a pour objectif d'aboutir à un seul exploitant nucléaire au lieu des cinq actuels. Cette mutualisation entraîne une baisse des effectifs au détriment de la sécurité des travailleurs. Elle diminue le nombre d'agents de sécurité et supprime la présence d'infirmiers capables d'effectuer les premiers secours de nuit et de week-end. Clairement, pour faire des économies, Areva met en péril ses salariés et les populations locales. Ce mouvement de grève est un avertissement à Areva qui privilégie la sacro-sainte compétitivité au détriment de la sûreté et des conditions de travail des travailleurs de la centrale. Ces salariés se battent pour l'intérêt général et nous sommes solidaires de leur lutte car nous voyons bien que les travailleurs du nucléaire sont eux aussi victimes de la course au profit dans laquelle s'est lancée la multinationale Areva en ignorant délibérément les risques qu'elle entraîne. En effet, cette course au profit est totalement incompatible avec les impératifs de sécurité nécessaires à cette industrie mortifère. Il est grand temps de sortir du nucléaire.
Merci Alain. Bien, avant de passer à l'interview du jour, on va écouter une chanson de Moustaki, de Georges Moustaki. Donc un petit mot là-dessus tout de même, puisque l'ensemble des chansons qui seront diffusées aujourd'hui seront de Georges Moustaki, puisqu'on tenait à rendre hommage à ce monsieur dont les idées étaient finalement bien souvent assez proches des nôtres.
Il y a des chansons qui reviennent, comme revient le mois de mai. Chansons d'amour vieilles rengaines, où toujours rime avec jamais. Je veux sur la même musique, parler du monde d'aujourd'hui. Mi-souriant, mi-nostalgique, conclure en déclarant ceci. Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées, et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Oui, je voudrais en quelques strophes livrer messages et discours, et être un nouveau philosophe en allant chanter dans les cours. Avec mon piano à bretelles, j'irai de pays en pays, répandre la bonne nouvelle et faire un peu d'écologie. Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées, et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser.
Et si par malheur je m'essouffle à vouloir tout dire en chantant, je me mettrai dans mes pantoufles, je m'arrêterai quelque temps. Mais comme revient l'hirondelle un jour à la belle saison, je reviendrai à tire-d'aile célébrer pelouse et gazon.
Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées, et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser.
Vous écoutez toujours Atomic Pack, l'émission de sortir du nucléaire en Drôme-Ardèche. Donc aujourd'hui, nous recevons plusieurs représentants du collectif Stop Tricastin, donc qui est un collectif qui s'est créé cette année donc pour demander la fermeture du site du Tricastin. Et nous allons commencer donc par présenter chacun des représentants des associations que nous avons aujourd'hui comme invités. Et nous allons commencer par Jean Revest du de la coordination antinucléaire du Sud-Est, et plus précisément du collectif antinucléaire du Vaucluse. Jean, es-tu présent ?
Oui, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs, bonjour à la technique, bonjour aux personnes présentes dans le studio.
Bonjour.
Bonjour, on est tous contents.
Donc voilà, bah, si on pouvait débuter cette interview par une petite présentation donc, de l'association dans laquelle tu milites.
Oui. Alors donc, bah, le collectif antinucléaire de Vaucluse est un collectif citoyen, donc ce n'est ni une association, ni une structure organisée. On a opté effectivement pour un principe de collectif de façon à ce qu'il n'y ait pas d'enjeu de pouvoir. où donc chacun compte pour un, chacune compte pour un, et c'est donc un collectif de citoyens qui regroupe des hommes et des femmes de tout âge, de toute profession, et des chômeurs et des retraités, et qui s'est fixé comme objectif l'arrêt immédiat du nucléaire, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, ici, partout et maintenant. Et voilà, c'est un collectif qui existe depuis 5 ans. Mmh. Et ensuite, son origine, sa genèse, pourquoi, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, si, ou maintenant, comme vous voulez.
Bah, on peut y aller dès maintenant. Vas-y, raconte-nous.
D'accord. Alors, en fait, un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans le collectif avaient fait des expériences de militants dans d'autres organisations, soit environnementales, soit écologiques, soit sociales, soit politiques. Et cette expérience nous a conduit, alors souvent individuellement, mais à faire un même constat, c'est qu'à un moment donné, une organisation répond à un besoin, elle se structure, elle naît, elle se développe, et puis à un moment donné, ça stagne, et puis il y a d'autres enjeux qui prennent le relais sur l'objectif. Alors, je dirais que ça suit le cours logique d'un être humain. Hein. On naît, on se développe, et puis arrive un moment où on commence à plafonner, à être sur la ligne droite, et puis à décliner. Voilà. Et donc, nos expériences militantes et d'investissements sociétaux, des uns des autres, avaient conduit à ce constat que la structure associative ou organisationnelle, qu'elle soit pyramidale ou non, n'était pas propice à l'expression individuelle et collective, mais notamment la question de la démocratie se posait pour nous, à savoir que souvent on fait l'éloge de la démocratie, mais on s'aperçoit que en fait c'est souvent la négation de la minorité. Quoi. Mmh. Donc on voulait vraiment pas retomber dans ce système-là où on dit collectivement que les propositions ou les expressions de l'un ou de l'autre ne sont pas justes parce qu'elles sont minoritaires. Donc on a opté pour le collectif qui fonctionne comme ça. C'est toute idée est bonne. Toute proposition est bonne, et donc si elle, c'est bon, elle peut se mettre en œuvre dès lors qu'elle agrège autour d'elle quelques personnes plus ou moins importantes. Et l'action, la démarche, la position s'exprime, qu'elle soit ou non majoritaire, puisque c'est pas le but recherché, c'est pas d'obtenir une majorité, mais c'est que l'action contre le lobby nucléaire ait lieu.
Mmh, d'accord, donc vous avez créé ce collectif, et puis recentrer vos actions donc sur l'objectif initial, donc demander l'arrêt immédiat du nucléaire. Votre bassin d'action, donc c'est principalement du côté d'Avignon.
Oui, alors c'est le Vaucluse d'une façon
plus générale. Le Vaucluse en général.
Voilà, avec l'aspect que, comme on le sait, la radioactivité connaît pas de frontières administratives ou politiques, ou sociales, ou de race, ou de sexe, etc. Donc évidemment, on agit par rapport à Tricastin, qui est à cheval, je dirais, sur le Vaucluse et la Drôme. Mm-hmm. On agit aussi sur Marcoule, qui est dans le Gard, parce que c'est justement de l'autre côté du Rhône. Et puis on agit aussi sur Cadarache, qui est dans les Bouches du Rhône, parce que on est au cœur du triangle de la mort. Quoi.
Oui. Bien, merci. Je pense que pour cette première présentation, déjà, on a un bon petit aperçu. On va enchaîner avec donc le deuxième représentant du collectif, qui est donc Alain Vol, notre partenaire, donc qui représente Sortir du Nucléaire, André Mardèche.
Bonjour à toutes et à tous à nouveau. Oui, Sortir du Nucléaire est une organisation dont l'activité et les objectifs sont inscrits dans son nom, Sortir du Nucléaire, c'est très clair. Aujourd'hui, nous rassemblons environ 140 militants sur la Drôme et sur l'Ardèche, avec des groupes constitués plus fortement sur le sud de l'Ardèche et un groupe centré sur Die. Mais nous avons des réunions mensuelles où nous organisons et coordonnons nos actions. Nous avions une commission intitulée Stop Tricastin, car nous réfléchissons effectivement depuis longtemps sur les différents moyens pour obtenir la fermeture de cette centrale et de tout le site chimique qui l'entoure. Et nous avons commencé à entamer un discours avec d'autres organisations que nous retrouvions ici et là dans des actions pour coordonner nos actions de façon à ce que ces actions soient plus fortes, plus visibles et plus engagées. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux effectivement de participer à ce collectif, mais nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet.
Sur sortir du nucléaire, tu disais qu'il y avait plusieurs groupes, ça fonctionne comment? Parce que là, on a entendu ce qu'a dit le copain du CAN, c'est-à-dire une sorte de fonctionnement un peu au consensus. Est-ce que c'est à peu près le même principe de fonctionnement sur sortir du nucléaire de Romardèche, ou est-ce que c'est plus compliqué?
Non, les choses sont pas plus compliquées. Nous nous réunissons tous les mois, nous avons des discussions, des débats, et bien entendu, nous fonctionnons aussi par consensus. Hein. Et là aussi, chaque voix compte. Il n'y a pas de minorité. Nous sommes tous dans la même dynamique, dans le même fonctionnement. En réalité, ce que nous essayons de faire, c'est d'être très fort, très carré dans les actions et très souple dans le fonctionnement.
Oui, c'est bien ça. On s'y retrouve. On va enchaîner donc avec Cécile Prunaretti, qui représente Greenpeace. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Donc, si tu pouvais nous présenter un petit peu ce que fait Greenpeace donc en local sur le territoire, et puis donc expliquer pourquoi est-ce que vous avez rejoint le collectif Stop Ricastin.
Alors en fait, Greenpeace a lancé une grande campagne électricité qui concerne 5 centrales nucléaires en France. Donc il y a le Tocantins, il y a
Greenpeace. On entend mal.
On entend mal ?
Oui. Si tu peux reprendre un petit peu ta phrase.
Oui, donc en fait, Greenpeace fait une campagne contre 5 centrales nucléaires,
oui.
Partant du principe que donc François Hollande avait demandé à, disons, s'était engagé à faire fermer la centrale de Fessenheim. Mm-hmm. Et nous, notre réponse, c'est que s'il ferme Fessenheim, il ferme aussi donc les 5 centrales qu'on estime les plus aussi dangereuses que Fessenheim en France, dont Tricastin fait partie. C'est pour ça que le groupe local, on fait campagne contre Tricastin, et il était tout à fait normal qu'on rejoigne le collectif Stop Tricastin du fait pour qu'on soit plus nombreux sur la lutte locale.
Oui, c'est cohérent avec l'exigence de fermeture de ces 5 centrales dont Tricastin fait partie.
Mais les actions de Greenpeace sont connues, elles sont extrêmement médiatiques et souvent des actions, on dirait militantes, très organisées. Vous introduire dans un collectif avec d'autres groupes qui ne fonctionnent pas de la même façon, ça ne vous pose pas problème d'un point de vue de fonctionnement? Ça se passe tout à fait naturellement?
Ça se passe extrêmement bien.
D'accord. Donc il n'y aura pas un planeur de Stop Tricastin qui survolera, ou peut-être pas...
Pourquoi pas.
Oui, voilà, ou pourquoi pas, voilà, ça vous amène aussi votre expertise et votre expérience, quoi.
Oui, complètement. Après, oui, c'est vrai qu'en termes de logistique, s'il y aurait... On va dire que dans le futur, s'il y avait vraiment besoin, je pense que Greenpeace offrait une joie d'intervenir, justement.
Effectivement, d'apporter son expérience, effectivement.
Voilà, son expérience et sa logistique aussi, parce que c'est vrai que...
Oui.
Il y a tout ça, quand même.
Et en local, donc, est-ce que Greenpeace a un groupe bien implanté, donc, sur la région?
Alors, disons que oui, ça commence, ça commence à prendre pas mal. Il faut savoir que Greenpeace Avignon, en fait, c'est Greenpeace Ardèche, Greenpeace Drôme et Gard, parce que le seul groupe local qui est dans cette région-là, c'est Avignon.
Oui.
Donc c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'on couvre pas mal de distance et que pour essayer de réunir les gens, c'est des fois compliqué.
Oui.
Mais bon, c'est vrai que oui, ça commence à prendre de l'ampleur localement et on commence à avoir pas mal de poids. Voilà. Mais ça aussi parce qu'on s'implique beaucoup dans la vie associative locale, quoi.
Mmh.
C'est vrai que ça se fait pas sans l'aide et sans l'appui des associations.
D'accord. Merci. Donc comme vous pouvez un petit peu entendre tout à l'heure, donc on a un petit peu des positions différentes entre le CAN 84 qui demande l'arrêt immédiat tout de suite maintenant et partout du nucléaire, et puis la position de Greenpeace qui demande préférentiellement la fermeture de 5 centrales. Donc est-ce que Alain, tu peux un peu nous expliquer comment finalement tout ce joli monde se trouve rassemblé dans le collectif Stop Tricastin sur un objectif bien commun et défendu par tous, et puis nous présenter un peu les membres du collectif.
Ben, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons décidé d'être très souples dans l'organisation, et donc les associations qui ont rejoint le collectif Stop Tricastin viennent avec leur personnalité, leurs idées. Mais en revanche, l'objectif est commun, la fermeture immédiate du site nucléaire et chimique du Tricastin.
Là-dessus, tout le monde est d'accord.
Totalement d'accord. Et d'ailleurs, nous sommes en train de préparer une charte, effectivement, qui sera signée par toutes les parties, pour être complètement et totalement fixé sur cet objectif. Ceci étant, au départ, donc, à Sortir du Nucléaire, on avait une simple commission qui s'appelait Stop Tricastin. Et en revanche, on a pensé que pour obtenir la fermeture de cette centrale, il fallait effectivement être plus fort, plus nombreux, plus unis. Et c'est pour ça que nous avons rencontré successivement nos amis du CAN 84, puis de Greenpeace. Et d'autres, bien entendu. Et aujourd'hui, nous avons des réunions très riches, très intéressantes, et nous arrivons à préparer effectivement des actions, des documents, à tel point que nous venons de sortir la première lettre d'information destinée à la population, tirée à 25 000 exemplaires, qui est le fruit justement de la mise en commun de notre travail, de nos informations, de nos connaissances.
Est-ce que tu peux d'ailleurs rapidement nous citer le nom des autres groupes qui font partie du collectif, puisqu'il n'y a pas que les trois associations représentées aujourd'hui ?
Oui, alors de mémoire, nous avons les Amis de la Terre 26, les Amis de la Terre 84, les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône qui viennent d'adhérer. Je crois aussi que Sortir du Nucléaire 34 a manifesté son intention de nous rejoindre. Nous avons aussi Créavignon, nous avons aussi Avenir... Avenir Avignon, je crois que ce sont deux structures qui travaillent sur Avignon, donc beaucoup de gens sur Avignon sont concernés, et je crois...
Il y a un collectif gardois aussi.
Oui, il y a aussi des militants gardois qui sont en train de nous rejoindre. Donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes en mesure, en passe, de rassembler les structures et les militants antinucléaires de 5 départements autour de Tricastin, la Drôme, l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, car bien entendu, en cas de vent fort, le nuage radioactif descendra jusqu'à Marseille. Ils l'ont bien compris.
En effet. Et en parlant de nuages radioactifs, nous allons faire une petite pause musicale en écoutant Georges Moustaki à nouveau avec la chanson Hiroshima.
Par la colombe et l'olivier, par la détresse du prisonnier, par l'enfant qui n'y est pour rien, peut-être viendra-t-elle demain avec les mots de tous les jours, avec les gestes de l'amour, avec la peur, avec la faim, peut-être viendra-t-elle demain. Par tous ceux qui sont déjà morts, par tous ceux qui vivent encore, par ceux qui voudraient vivre enfin, peut-être viendra-t-elle demain. Avec les faibles, avec les forts, avec tous ceux qui sont d'accord, ne serait-il que quelques-uns, peut-être viendra-t-elle demain. Par tous les rêves piétinés, par l'espérance abandonnée, à Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain. À Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain. À Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain. La paix.
Vous écoutez toujours Atomic Mac. Nous sommes toujours en présence des membres du collectif Stop Tricastin, donc Alain Vol pour SDN 2607, Jean Revest pour le CAN 84 et Cécile Prunaretti pour Greenpeace. Donc la question bien naturellement qui vient quand on a un collectif comme ça en présence, c'est de demander pourquoi concrètement, quelles sont les raisons techniques et autres qui vous font demander la fermeture immédiate du site du Tricastin. Jean.
Oui, alors nous, depuis le début, on agit et on lutte contre le lobby nucléaire et le nucléaire et la destruction atomique, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Quand on parle de nucléaire, c'est un subterfuge qui a été mis en place par les idéologues dominants. Le nucléaire n'existe pas, c'est la destruction atomique. Voilà. Donc nous, on dit que c'est pour des raisons principalement et primordialement sanitaires et de santé publique qu'il faut arrêter immédiatement le nucléaire. Parce que chaque jour, les installations nucléaires... Alors, je ne sais pas si ça a été dit parmi les invités, parce que malheureusement, il y a eu une coupure radio, donc je n'avais pas le retour du studio. Mais donc, je vais peut-être dire des choses qui ont déjà été dites. Tous les jours, les installations nucléaires, que ce soit les centrales ou les autres sites nucléaires, enrichissement de l'uranium, traitement, etc., rejettent dans l'air et dans l'eau des radiocontaminants, de la radioactivité. Alors c'est légal, hein, c'est des autorisations gouvernementales ou préfectorales, mais ça ne veut pas dire que c'est légitime. On n'a pas le droit, de notre point de vue, de contaminer et d'intoxiquer la chaîne alimentaire, l'air et l'eau que chacun respire. Donc c'est pour ces raisons-là, sanitaires et de santé publique, contre les atteintes à la santé quotidienne par les installations nucléaires, qu'on demande l'arrêt immédiat. Alors, pour nous, c'est clair que c'est ni une question technique, parce qu'on a toutes les technologies de remplacement qui existent au monde et qui sont utilisées par 95% des pays de la planète, des solutions alternatives. C'est pas non plus une question politique, parce qu'on voit bien que les gouvernements passent, changent soi-disant d'options et d'orientation, mais ils sont tous pro-nucléaires, puisque le lobby a gangréné les administrations, les institutions depuis 50 ans. Voilà. Donc on dit c'est pas une question politique, puisqu'on voit bien que quelles que soient les options politiques, le nucléaire continue. Ils continuent dans leur crime, parce qu'on estime que c'est un crime public contre la santé des gens et contre les populations. C'est une véritable déclaration de guerre que les industriels et les fanatiques du nucléaire civil et militaire ont déclaré au peuple, aux gens. Donc nous, nos raisons fondamentales, c'est pour des raisons sanitaires et de santé publique, arrêt immédiat du nucléaire.
Voilà. Oui, merci Jean. Oui, effectivement, bon, c'est assez intéressant, étant donné que vous êtes sur Avignon et qu'il y a la centrale qui est autour de vous, c'est Tricastin, même si j'ai bien compris que le message du CAN, il est général, ça ne correspond pas qu'à Tricastin, c'est sur l'ensemble des centrales nucléaires, on a bien compris. Pour sortir du nucléaire, c'est peut-être un petit peu différent la question qui s'est posée par rapport au Tricastin, parce que vous êtes confronté en Drôme-Ardèche avec 14 réacteurs, on va dire quasiment, hein, quand on est sur Valence ou sur la Drôme ou sur l'Ardèche. On a une chance ou une malchance de pouvoir subir un incident sur 14 réacteurs. Pourquoi vous avez mis plutôt l'accent sur le Tricastin alors que Cruas et Saint-Alban, par exemple, se sont une nouvelle fois montrés comme les plus mauvais élèves de la classe du nucléaire? Vous auriez pu se créer un stop Cruas, un stop Saint-Alban.
Oui, mais ça peut arriver. Hein. C'est, pour l'instant, c'est stop Tricastin, mais bien entendu, nous intéresserons le moment venu à Cruas et à Saint-Alban. Moi, je partage sur le fond complètement ce qui vient d'être dit de la part de Jean Revest du CAN. Bien entendu, cet aspect sanitaire et cet aspect mortifère de cette industrie. En revanche, techniquement, nous, sortir du nucléaire 2607, on a choisi effectivement de mettre l'accent sur la fermeture de Tricastin pour principalement quatre raisons. La première, c'est que c'est la plus grosse concentration d'industrie nucléaire et chimique de France, car en effet, à côté des quatre réacteurs Tricastin, il y a trois ou quatre sites Seveso qui produisent de la chimie du nucléaire, et donc ça renforce encore le danger de l'installation. Il y a aussi le deuxième point très important, c'est le vieillissement des installations. Il faut savoir que Tricastin a dépassé ses 30 ans, c'est une vieille centrale, et qu'en particulier le réacteur numéro 1 comporte une vingtaine de fissures sur sa cuve, la cuve qui enferme le cœur du réacteur, et que pour l'instant, nous n'avons pas d'informations sur l'évolution de ces fissures. Quand nous posons les questions dans le cadre de la CLIGET ou d'autres structures, on nous dit que c'est suivi, c'est surveillé, mais on ne sait jamais ni par qui, ni comment, et on ne connaît jamais les résultats. Donc ceci est très inquiétant. Et en plus, il y a des incidents de niveau 1, 2 ou 0, mais des incidents réguliers. Enfin, Nous sommes dans la vallée du Rhône et donc nous sommes sur une faille. Et là aussi, il y a des risques sismiques, ce qui n'est jamais très très bon quand on a une vieille centrale nucléaire. Et enfin, le quatrième point, qui est malheureusement valable un peu partout, mais nous considérons que dans la région, les plans d'évacuation, les plans de protection sont notoirement insuffisants, en particulier avec le régime des vents de la vallée du Rhône. Et donc, nous pensons que rien n'est réellement prévu pour l'évacuation de la population en cas d'accident. Donc, c'est pour ces quatre raisons principales que nous demandons l'arrêt immédiat de la centrale de Tricastin. Et il y a aussi un autre élément qui intervient, bien entendu, c'est les travailleurs du nucléaire et les sous-traitants du nucléaire. Nous pensons à ces gens qui, effectivement, sont aussi menacés au quotidien. Ils n'en ont pas toujours conscience, mais actuellement, ils en ont conscience quand on voit ce qui se passe avec la grève des pompiers qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, les travailleurs nucléaires sont concernés. Et d'ailleurs, nous allons essayer d'entamer un dialogue avec eux pour voir comment on pourrait effectivement travailler sur cette fermeture et la reconversion de leurs emplois.
Effectivement, on voit à peu près le projet global qui se pense. Je pense que Lucan s'associe à ça aussi. On n'a plus Greenpeace en ligne, mais dans l'explication que nous a donnée la copine tout à l'heure, je pense qu'il y avait le même accord. Et puis le fait de l'âge de la centrale intervenait aussi beaucoup dans leurs décisions à Greenpeace. Sur les problèmes de santé publique, est-ce que vos associations, que ce soit Lucan ou Sortir du Nucléaire, est-ce que vous avez mené des études ou est-ce que vous travaillez sur, par exemple, la pollution du Rhône, réchauffement du Rhône, etc.
Alors, au niveau du CAN 84, on a fait réaliser, il y a quelques années, des prélèvements d'eau de robinet, hein, d'eau dite potable dans quelques villes, malheureusement pas plus que trois, parce qu'on n'a pas les moyens financiers, ni du lobby, ni des administrations. Mais voilà, on a mené cette action d'analyse d'eau par un organisme, un laboratoire indépendant, et ça, il s'est révélé qu'il y avait du tritium radioactif dans l'eau du robinet de trois villes. Donc, si on estime qu'il y a trois villes qui présentent des caractéristiques d'eau impropres à la consommation, on pense qu'il faudrait faire réaliser des analyses systématiques, et c'est ce qu'on réclame et ce qu'on exige des conseils généraux, notamment, et des municipalités, faites procéder régulièrement à des analyses d'eau et d'air, plusieurs fois par an, par des laboratoires indépendants, qu'on ait un point de la réalité sanitaire de notre région, de la vallée du Rhône et des différents départements. Et puis on sait par ailleurs que par des informations dont on dispose au sein de l'hôpital d'Avignon, par exemple, que depuis 3 ans, l'hôpital d'Avignon est malheureusement l'hôpital le plus en tête du palmarès de ceux qui accueillent maintenant des enfants atteints de nodules à la thyroïde, et notamment dans un rayon de 10 à 15 kilomètres autour des centrales nucléaires. Voilà les éléments sanitaires qu'on a localement. Et puis ensuite, il y a toutes les analyses qui existent au niveau des autres pays. Et malheureusement, en France et notamment dans notre région, les administrations et l'État refusent de mettre en place un registre sanitaire des cancers radio-induits. Hein, malgré des demandes d'amis médecins qui proposent de faire ça gratuitement. Bref, il y a l'omerta, il y a un refus des administrations, des autorités régionales de santé, ou voire des fois des conseils régionaux ou généraux, de mettre en place un registre épidémiologique sur les cancers. Donc en France, on est toujours sous le coup de cette omerta et de ce noyautage des administrations et des pouvoirs publics.
Donc si on comprend bien, Jean, je t'interromps, c'est une grosse partie du boulot que vous allez faire là, ça va être justement donc de faire ce travail d'information, d'alerte des populations. Sortir du nucléaire, vous travaillez avec la FRAPNA un petit peu, vous avez fait des articles avec la FRAPNA sur la pollution du Rhône aussi, etc. Ce travail d'information, vous le faites, quoi.
Oui, bien sûr, mais comme le disait Jean, malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui de véritable étude épidémiologique. Il y a quelques années, un début d'étude épidémiologique avait été fait avec Jean-Pierre Morichaud, mais ça n'a pas abouti. Il y avait une deuxième phase qui devait démarrer, mais les budgets n'ont jamais pu être obtenus. Et donc, effectivement, c'est l'omerta. Et Stop Tricastin, on va essayer, effectivement, je l'espère, tous ensemble, de faire bouger tout ça et d'obtenir des informations précises, concrètes, pour informer la population. Les risques qu'elle court.
Comme on le dit à chaque émission, à chaque fois, c'est toujours trop court. On vous remercie tous, y compris la copine de Greenpeace qui n'est plus en ligne, d'avoir été présent. C'est toujours un peu court une émission, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir un peu sur les travaux de Stop Tricastin.
Et on voulait finir effectivement en demandant un petit peu les coordonnées de chacun. Donc Alain, donc l'adresse mail du collectif.
Alors pour ceux d'entre vous qui nous écoutez, qui seraient tentés de rejoindre le collectif, vous pouvez déposer vos coordonnées sur notre boîte mail stoptricastin.org de façon à ce qu'on puisse vous répondre. Et éventuellement, si vous oubliez ça, vous allez sur le site SDN2607. Nous avons un magnifique blog avec des informations qui concernent aussi le collectif.
Et l'adresse du CAN ?
Alors l'adresse du CAN, c'est www.coordination-antinucléaire-sudest.org. Donc là, aussi beaucoup d'infos sur la réalité en région, en Vallée du Rhône, et puis un peu nationale et internationale aussi.
Et quant à Greenpeace, il suffit d'aller nationalement sur leur site et on retrouve les coordonnées de Greenpeace Avignon.
Mais il y a un Greenpeace Avignon, ils ont un blog Greenpeace Avignon, vous allez directement dessus.
D'accord.
Bien, merci à tous. On enchaîne et termine avec l'agenda de Pierrick.
Bonjour à tous. Alors, je vous propose pour ce mois de juin une activité parmi tant d'autres, à commencer par l'infotour anti-THT. Les THT, ce sont les très hautes tensions, ces grosses lignes électriques qui sont absolument horribles dans notre paysage et qui s'implantent un peu partout. Il y a le 3 juin à 19h à Valence d'organiser une information au laboratoire, 8 place Saint-Jean. C'est précédé d'un repas. N'hésitez pas à venir avec quelques bouteilles, par exemple. Il y a également le 4 juin à Grenoble, la même information. Je ne sais pas si vous serez disponible le 3, alors je vous propose d'y aller le 4 à Grenoble. C'est à l'espace Antigone, 22 rue des Violettes. Plus d'informations sur l'agenda de SDN 2607, bien évidemment. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, en tant que militant expérimenté ou militant débutant, de participer à un stage de formation à la désobéissance civile qui est organisé samedi 8 et dimanche 9 juin au Petit Robin à Livron-sur-Rhône. Il vous suffit de vous inscrire en remplissant les documents que vous trouverez dans notre agenda. Ce stage s'adresse à tous. Il associe approche théorique et exercice pratique, mise en situation technique et bricolage destiné à permettre de mener à bien des actions directes non violentes. On insiste sur la non-violence. Il y a également des ateliers qui concernent les médias, les aspects juridiques. Ça offre l'occasion de mieux comprendre comment rendre visible la lutte et de mieux nous défendre contre les répressions que l'on peut parfois subir. Il existe la possibilité de rencontrer nos militants comme chaque samedi matin de 11h à 12h30 à la Porte Neuve de Valence, hein, le jour du marché, pour l'action Zone d'exclusion. C'est une action qui perdure et je vous en parle tous les mois. Vous avez la possibilité de venir chercher plus d'infos, plus d'actions, plus de discussions, plus de débats lors de nos réunions mensuelles. La prochaine est prévue le 24 juin de 18h30 à 20h30 à la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes pour la Nature, 44 avenue de Verdun à Valence. Mais n'oubliez pas de réserver votre mois de juillet pour une grosse action qui est organisée à l'initiative du collectif Footprint for Peace. Ça a lieu du 1er juillet au 28 juillet même, en Vallée du Rhône. C'est une marche internationale pour la paix et un monde sans nucléaire. C'est un voyage à pied en signe de solidarité internationale pour un avenir sans nucléaire et pour la paix dans le monde. La marche partira du Narbonnais et remontera jusque dans la Vallée du Rhône pour se finir à Bugey. L'objectif, c'est de sensibiliser des effets mortifères de l'ensemble de la chaîne du combustible et de sortir du nucléaire civil et militaire dans un esprit pacifiste, tout en faisant la promotion des alternatives. Donc, départ de Narbonne, on passe à Béziers, à Sète, à Nîmes, à Montpellier, à Valence, Romans-sur-Isère, Bourgoin-Jallieu et Bugey, tout ça à pied. Donc, si vous voulez rejoindre les marcheurs pour une demi-journée, une journée, plusieurs jours, n'hésitez pas à les contacter suite à leur sur leur adresse mail. Donc c'est marchesortirdunucléaire@gmail.com ou bien au 06 78 75 60 55. Plus d'infos sur notre blog. Et vous avez la possibilité de poser toutes les questions qui vous intéressent en ce qui concerne le nucléaire sur notre répondeur. Un répondeur gratuit au 0805 69 67 58. Comme je le rappelle, c'est gratuit et il y aura une émission spéciale avec des scientifiques et des intervenants qui répondront à toutes les questions que vous posez. On espère pouvoir vous compter parmi nous le 1er juillet prochain pour la prochaine émission d'Atomic Mac. Celle-ci était faite autour d'un spécial Moustaki en hommage, bien évidemment, avec Hiroshima. Et heureusement qu'il y a de l'herbe, les deux petites chansons qu'on a pu entendre. Elle a été réalisée, l'émission, grâce à Céline, Georges, Dominique, Alain, Andrea, Vanessa. et également Simon à la technique. Un grand merci à toute l'équipe radio d'Atomic Mac et de Radio Méga de nous accueillir sur le 99.2. Et maintenant, un dernier titre du plus célèbre d'Emetech, sans la nommer. Nous laissons notre ami Georges finir en beauté cette émission. Merci à tous et à bientôt.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout.